9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Maître Serin te salue, ami IESCIS, je suis ravi de vous retrouver tous les jours. Pas tous les jours,
carrément. Alors là, Maître Serin, il y a du nouveau.
Ouais, je sais pas pourquoi, tous les vendredis.
C'est vous qui allez remplacer Mona.
Bah écoutez, c'est faut croire. Donc tous les vendredis, de 9h à 10h, heure au cours de laquelle nous tenterons d'allier la bonne humeur et le droit, et peut-être même qu'avec Philippe Robichon, nous inaugurons une nouvelle rubrique, car nous chanterons peut-être une petite chanson, si nos auditeurs sont sages. Mais avant de chanter notre tube, évoquons l'actualité de la semaine, et je ne pouvais pas ne pas parler de celui qui sera peut-être le prochain président de la République, monsieur Mustapha Zemmour. C'est comme ça, moi je sais pas pourquoi il a une tête à s'appeler Mustapha. Alors j'ai suivi son meeting, pas sur place évidemment, hein. J'ai trop un faciès d'arabe, ça aurait pu me coûter la vie. D'ailleurs ça a mal tourné pour certaines personnes des SOS Racisme. En même temps, on n'a pas idée de se rendre dans un tel meeting transpirant la haine de l'autre et espérer être accueilli à bras ouverts. D'ailleurs, ce meeting ressemblait un peu au meeting qui était alors organisé par, vous savez, ce petit bonhomme avec une toute petite moustache et le bras tendu à 45 degrés qui galvanisait alors ses troupes en déclarant que tous les maux de son pays n'étaient dus qu'aux Juifs. Aujourd'hui, c'est l'arabe, le musulman, qui serait à l'origine de tous les problèmes de la France, selon le leader du parti Reconquête. D'ailleurs, parmi la foule, j'ai pas vu une seule femme voilée. Heureusement, me direz-vous, le gentil public de Zemmour aurait été capable de la jeter au bûcher. On n'a pas vu non plus, et c'est curieux, de drapeau algérien, alors qu'en principe, quel que soit l'événement, sportif ou pas, t'as toujours un drapeau algérien qui flotte, et là, rien. En fait, si t'analyses bien ce meeting, le seul et unique faciès d'arabe qu'on a vu, c'est Zemmour lui-même. Restons toujours dans la politique pour saluer le début de lucidité de Madame Anne Hidalgo. Je crois que vous l'aimez beaucoup, mon cher Philippe, candidate à l'élection présidentielle pour le Parti Socialiste, lequel parti risque de devenir, après ces élections, un vieux souvenir qu'on étudiera dans les cours d'histoire et on dira « Ah, il fut un temps où il existait un Parti Socialiste ultra puissant et dont l'un de ses représentants, monsieur Mitterrand, que les plus jeunes ne connaissent probablement pas, avait même envisagé à l'époque de permettre aux étrangers de voter aux élections locales. Alors je vous rassure, c'était
alors
probablement...
ça c'était
probablement
les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent.
On est entièrement d'accord, hein, moment de folie donc probablement de Mitterrand. Personne n'a cru sérieusement que les étrangers se verraient un jour avoir cette possibilité de voter aux élections locales. Enfin, je suis content, hein, moi, que la candidature d'Anne Hidalgo soit vouée à l'échec. T'imagines ce qu'elle aurait fait de la France quand tu vois ce qu'elle a fait de Paris. En plus, avec une dette de plus de 7 milliards, et tiens, que celui qui a réussi à dépasser les 30 km/h en voiture à Paris récemment nous appelle. Non, la seule bonne nouvelle de la semaine, décidément, c'est l'échec annoncé d'Anne Hidalgo. Et vive la politique. Allez, à vous la parole. Appelez-nous au 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de celui dont je soupçonne être un amoureux caché d'Anne Hidalgo, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Les soupçons sont complètement infondés, maître
voilà,
Serral.
Bah
alors,
voilà.
Déjà, alors, non, là, vous mélangez tout.
Non, c'est vrai.
Parce que je trouve que c'est une très belle femme.
Alors,
voilà, mais
qu'il faut pas,
avec,
voilà.
Moi je suis un usager de Vélib,
ouais.
Et je peux dire qu'avec le massacre qu'elle a fait du vélo en libre-service à Paris, voilà, faut arrêter.
Alors,
et tous les usagers de Vélib qui m'écoutent comprendront que, avec ce qu'elle a fait, elle dit qu'il faut faire du vélo à Paris, mais c'est compliqué hein, de faire du vélo à Paris, moi je vous dis. Hein.
Ouais, c'est
faut
compliqué.
Avoir les fesses bien amorties parce que...
Elle les a.
Bon, mettre ses rats.
Enfin, on n'évoque pas le physique.
Non, qu'on n'évoquait pas
vrai,
ni le physique
vrai.
Des candidats,
ouais, c'est vrai.
Ni d'Éric Zemmour.
Ni d'Éric Zemmour.
Je trouve que c'est bas ce que vous faites de l'attaquer sur son physique. Donc je vous demanderai, Maître Serran, d'en rester aux idées.
D'accord. Donc hein? Il aurait souhaité
c'est suffisant.
Un grand 1m90, un long.
J'envisageais, parce que je vais faire un débat avec Éric Zemmour dans pas très longtemps, de vous inviter à cette table-là.
C'est sympa.
Mais si vous l'attaquez sur son physique, vous pourrez pas.
Bah non. Non, mais des fois, il s'emporte. C'est-à-dire que s'il me parle mal, je crois que je pourrais le chiffonner.
Le chiffonner.
Ouais.
Bien. Sans transition aucune, vous pouvez poser vos questions à Maître Serran, vos questions juridiques, bien sûr, pas politiques. Hein, c'est Adil Farkan bien que sûr. Vous retrouvez le soir pour parler de politique. Mais les questions juridiques, c'est Maître Serran qui s'en occupe au 01 53 48 3000. Nous allons parler de harcèlement sexuel au travail, Maître Serran. Alors, inspiré effectivement, comme souvent, de cas que vous avez à gérer dans votre cabinet, à partir de quel moment est-ce qu'on peut parler de harcèlement sexuel ?
Alors c'est vraiment une très bonne question, parce que quand on pose la question à ceux qui en tout cas se disent concernés, et quand on vient nous consulter, alors on ne va pas nous consulter tous les jours pour ça, mais c'est vrai qu'on a eu un cas assez particulier il n'y a pas si longtemps. Au début, quand vous discutez avec ces personnes-là, alors quand je dis ces personnes-là, on va parler des femmes, mais je crois qu'il faut apporter quand même une précision, c'est-à-dire que les femmes n'ont pas le monopole de cette infraction de harcèlement sexuel. Il y a aussi des hommes qui sont potentiellement concernés, mais c'est vrai qu'on en parle moins. C'est-à-dire que si vous êtes un homme et vous vous plaignez de ça, on va vous regarder de travers, on va sourire, on va pas vous prendre au sérieux, et donc on va, j'allais presque dire, à la fin, vous reprocher de chercher la petite bête. Mais dans l'absolu, ça concerne les hommes et les femmes. En l'occurrence, là, dans mon exemple, donc il s'agit d'une femme, et quand elle vous explique la situation, c'est-à-dire qu'au début, on a l'impression que c'est, entre guillemets, des blagues dans le cadre de l'activité professionnelle. Alors, il faut savoir que le harcèlement sexuel, ça peut venir soit d'un supérieur hiérarchique, mais pas forcément. Ça peut être votre collègue de bureau, et puis vous pouvez être, en tout cas, avoir le sentiment d'être harcelé sexuellement également avec une personne de même sexe. Donc ça aussi, hein, ça a son importance. C'est pas madame, enfin une femme.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut envisager tous les cas de figure.
Ah, mais complètement. Ouais. Donc c'est vrai qu'encore une fois, voilà, hein, ce sont des éléments qu'on n'avait pas il y a quelques années, mais aujourd'hui, toutes les options sont envisageables. Donc quand on vous explique ça, dans un premier temps, on vous dit que bon, c'était entre guillemets des petites blagues qui, il y a quelques années, posait pas de difficultés quand vous faisiez souvent celui qui harcèle dit oh bah c'était plutôt un compliment en disant bah tiens t'as une belle robe ou t'as de belles formes, enfin voilà, c'était considéré en tout cas à l'époque comme quasi anodin, que ça posait pas de difficultés. La société a évolué et c'est une bonne chose, donc on considère qu'aujourd'hui ce genre de ce qui était un compliment ne l'est plus forcément. Il y a ce caractère sexuel donc qui est mis en avant, qui est de plus en plus mal ressenti par les personnes qui reçoivent ces prétendus compliments, et ça vous met évidemment dans une position où vous êtes dans un premier temps mal à l'aise, mais on va aller au-delà, c'est-à-dire que vous pourriez faire cette remarque sans avoir, encore une fois, selon moi, d'arrière-pensée particulière. Le harcèlement sexuel, ça va plus loin, hein, c'est-à-dire que ces compliments ou pseudo-compliments sont destinés dans la finalité à avoir quand même une relation sexuelle avec l'intéressé. Ce ne sont pas des compliments, on va dire, gratuits. Ce ne sont pas des compliments juste pour flatter l'intéressé. Ou encore une fois, vous pouvez dire, bah tiens, t'es belle avec cette robe ou autre. Eh ben, le harceleur va encore plus loin. Sa volonté, c'est de vous faire comprendre qu'il aimerait avoir une relation avec vous. Donc, il y a deux manières. Soit vous faites une drague classique, voilà, comme on a tous connu ça, que j'ai connu, mais depuis que je suis avec Madame Serra, vous avez bien compris, mon cher Philippe, que la drague ne me concerne plus.
Oui.
Hein, voilà.
Ça, enfin, vous dites ça parce que Madame Serra ne vous écoute le vendredi.
J'aime bien le rappeler. Oui. C'est pas bien ce que vous dites.
Non, mais enfin, bon, faut être réaliste.
Oui, non, mais c'est une réalité, mon épouse le sait. Donc la drague classique, et puis il y a aussi la drague lourde qui est pas forcément du harcèlement sexuel. Donc c'est là où on se dit parfois la limite est un peu ténue. Vous pouvez être un dragueur lourd, un mauvais dragueur. Le harceleur sexuel est celui qui j'allais presque dire va insister plus que lourdement. Il va pas vous toucher, encore une fois. C'est-à-dire que il y a un distinguo à faire. Le harceleur sexuel ne vous touche pas. Il peut éventuellement.
Vous voulez dire physiquement?
Physiquement, ouais, voilà.
D'accord.
Hein. Mmh. Il peut éventuellement, entre guillemets, vous bloquer dans un bureau, mais tant qu'il vous a pas touché, donc la limite, on va dire, de l'attouchement sexuel n'est pas atteinte. Mais, si vous recevez très régulièrement des mails, plus ou moins annonciateur d'une volonté d'avoir une relation avec l'intéressé, si en tête à tête ou parfois même dans des réunions dans le cadre d'un boulot, vous avez l'impression que vous êtes la seule visée. Alors s'il y a que des hommes et vous êtes la seule femme, on peut se dire bon bah c'est la seule femme et elle a peut-être cette impression là. Mais si au sein de votre bureau il y a plusieurs femmes qui sont là et puis vous êtes la seule à recevoir, entre guillemets, ces observations, encore une fois, qui ne sont plus des compliments à partir d'un certain stade, vous pouvez éventuellement considérer que vous êtes peut-être harcelé sexuellement. Et ça se traduit aussi beaucoup, comme dire autre, dans le mental, c'est-à-dire.
Mais alors vous dites, vous pouvez considérer, c'est pas la même chose, considérer et réaliser. Réalité, Maître Serran, à partir de quel moment est-ce qu'on peut, on peut placer le curseur en fait?
Le curseur, encore une fois, quand vous considérez, encore une fois, pardon pour l'expression, comme victime, de facto, c'est-à-dire la première remarque, vous pouvez dire, c'est du harcèlement sexuel. Ensuite, il y a aussi, j'allais presque dire, ce qui peut être sous-entendu ou pas par celui qui a prononcé telle ou telle phrase, par les personnes qui peuvent éventuellement témoigner. C'est-à-dire que vous pouvez aussi tomber sur une femme particulièrement susceptible et... les codes de la société font que si vous faites un compliment, je le redis, sur une tenue vestimentaire sans dire mais t'as un beau cul, ouais, sans être aussi cru que ça, la femme, en tout cas l'intéressée, pourrait mal le prendre. Ce serait pas pour autant du harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, en fait, il faudra qu'il soit caractérisé. C'est ça qui est important.
Alors qu'est-ce qui le caractérise
en droit, ce qui va le caractériser, c'est que, alors souvent on a l'impression que on a aussi défendu des personnes poursuivies pour harcèlement sexuel. Parfois, vous avez la personne qui dit « Mais j'ai dit ça, j'ai fait une remarque. » Une remarque est suffisante, une remarque malvenue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de répétition de la phrase, soit dans une même journée, soit dans la semaine, soit dans l'année. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites cette référence et que cette référence a un caractère sexuel et qu'elle laisse entendre, encore une fois, j'allais presque dire, c'est le raisonnement du type un peu sadique. Voilà, alors évidemment, c'est complètement subjectif, hein, ça, donc dans un premier temps, mais c'est ce raisonnement-là. Sur un plan purement juridique, en tout cas quand c'est écrit dans la loi, ça va être très difficile. Soit si on vous dit, écoutez, vous m'avez fait cette remarque, vous êtes le harceleur, vous pouvez mal le prendre. Et la femme qui dit, mais moi je suis harcelée, alors qu'en réalité elle ne le sera pas. Qui va le déterminer? C'est le magistrat à un moment. Donc, et le magistrat, qu'on le veuille ou non, il raisonnera aussi, comme vous, comme moi, en fonction de son expérience. C'est-à-dire qu'il ne va pas simplement se baser sur un texte. Vous avez un texte qui est effectivement précis, mais on va tenir compte à la fois du ressenti de l'intéressé, donc de la celle qui se présente en tout cas comme victime, et de l'intention de celui qui a prononcé peut-être la phrase malheureuse. Donc, dans un premier temps, vous serez considéré comme le harceleur, mais... À partir du moment où il y a un tribunal qui va statuer, alors soit le juge d'instruction qui va mener son enquête et renvoyer le dossier devant le tribunal correctionnel, soit éventuellement en comparution immédiate, ce qui est déjà un peu plus rare. En règle générale, il y a toujours une enquête qui est menée. Mais ça va reposer sur quoi? Ça va reposer d'abord sur le fait de savoir est-ce que celui qui est considéré comme le harceleur a déjà des antécédents. Donc on va prendre ça en considération. Ça va reposer sur d'éventuels témoignages. Et il faut savoir quand même que c'est un domaine où on a beaucoup de mal à avoir des témoignages. Parce que ceux qui vont éventuellement témoigner, ça va être qui? Ça va être des collègues de bureau. Et dans l'hypothèse où tout ça serait vrai... Les collègues de bureau n'ont pas forcément envie de se mouiller dans ce genre d'histoire. Mais on va tenir compte aussi de la personne qui se prétend victime. C'est-à-dire qu'il arrive aussi, c'est déjà arrivé, que des personnes mettent en avant, entre guillemets, ou portent des accusations de harcèlement sexuel, mais simplement pour nuire à la société, pour nuire au chef d'entreprise, ou alors il y a une augmentation qui vous a pas été accordée et puis vous êtes particulièrement contrarié. Donc il faut aussi prendre ça en considération. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parole absolue, il y a pas de postulat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans ce domaine-là, bien évidemment il y a une enquête très sérieuse qui doit être faite du côté de celui qui est présenté comme harceleur, mais une enquête qui doit être également très sérieuse du côté de la personne qui se présente comme victime. Pour pas, encore une fois, de manière très manichéenne, dire si une personne déclare ça, c'est forcément vrai. Donc, dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de juge et il n'y a plus besoin non plus d'avocat. Donc, c'est une situation qui est, encore une fois, très compliquée. C'est terrible ce que je vais dire. Si vous êtes véritablement victime de harcèlement, parce que dans un premier temps, votre parole va être mise en doute, mais c'est comme ça, en particulier dans ce type de litige. Mais moi, je crois que c'est quand même une bonne chose. Parce qu'encore une fois, une société qui se ferait condamner pour harcèlement sexuel, alors qu'il y aurait peut-être une sorte de médisance de la part de la personne qui se présente comme victime, ce serait aussi terrible pour la société, pour la réputation de la société, pour la réputation de l'intéressé. Et il faut voir aussi que pour peu que vous soyez marié, vous ayez des enfants, vous dirigez une société, un truc comme ça qui vous tombe dessus et qui serait entre guillemets dans l'absolu faux à la fin, le préjudice peut être aussi très lourd. Donc c'est vrai que on a cette tendance. Encore une fois, mais c'est la société qui est comme ça. On a cette tendance à actuellement, à partir du moment où vous avez ce type de dénonciation, de considérer que celle qui se présente comme victime est forcément une vraie victime. Alors qu'il n'y a pas eu un début d'enquête, qu'il n'y a pas eu encore de décision rendue, il faut aussi parfois se mettre à la place de celui qui entre guillemets est mis en avant en disant il m'a harcelé. Tant que l'enquête n'est pas terminée, vous savez, c'est ce qu'on entend tout le temps à la télé, le principe de présomption d'innocence. Mais là, en la matière, à partir du moment où vous avez été sali, entre guillemets, une première fois, quand bien même demain, l'intéressé serait relaxé, c'est-à-dire qu'on dit, écoutez, cette personne a affabulé, bah, votre réputation est terminée. Donc c'est très particulier. En fait, toutes les infractions qui touchent de près ou de loin au sexe, c'est assez particulier et c'est assez diffamant. À partir du moment où on parle de vous et quand bien même vous seriez relaxé le demain ou après-demain.
Maître Serran, dans un instant, vous poserez vos questions juridiques à Maître Serran au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions juridiques à Maître Serran au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000 si vous voulez que Maître Serran réponde à vos questions. Alors, vous pouvez poser toutes vos questions juridiques, pas forcément sur le harcèlement sexuel. Hein,
Non, voilà, on n'est pas cantonné à ce sujet, évidemment.
Quelle est la différence, finalement, entre le harcèlement sexuel et le harcèlement au travail ? Est-ce que ça relève de la même chose ?
Bah, d'abord, vous pouvez être harcelé. Alors d'abord, c'est la nature du sujet. C'est-à-dire que si vous avez l'impression ou si je vous harcèle au boulot, je vais vous donner une quantité de travail pas possible dans un temps très très limité. Harcèlement sexuel, il y aura toujours des petites blagues grivoises, comme on dirait. Ensuite, vous pouvez évidemment être harcelé sexuellement, mais pas forcément dans le cadre de votre activité professionnelle. Votre voisin peut vous harceler sexuellement.
Oui, parce que là, on parlait du cadre du travail, ouais, mais voilà, c'est vrai, hein, que ça peut être dans tous les cadres.
C'est évidemment beaucoup plus large que ça. Donc, on n'est pas exclusivement dans le cadre du travail, mais encore une fois, la différence entre le harcèlement au boulot, on va se cantonner simplement à vous embêter pour pas dire autre chose, mais on reste dans un cadre professionnel, c'est plutôt une quantité de travail qui vous sera donnée. Bah, harcèlement sexuel, je vais presque dire, par définition, il y aura toujours une référence plus ou moins discrète, plus ou moins intelligente au sexe.
Mais on peut avoir les deux, finalement. On peut être à la fois et harcelé sexuellement et harcelé au travail, en fait.
Mais complètement. Et puis, on voit ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous accepteriez de m'accorder des faveurs sexuelles, je serais peut-être plus doux avec l'intéressé quant à la quantité de travail qui lui sera attribuée. Donc, les deux peuvent se conjuguer complètement.
Mmh. On a besoin d'un avocat dans ces cas-là, Maître Serran.
Il n'y a pas besoin d'un avocat, vous savez, il y a beaucoup de procédures où l'avocat n'est aucunement obligatoire. Après, c'est quand même intéressant, alors d'abord, d'en parler à votre entourage, mais c'est aussi intéressant d'avoir l'avis d'un juriste et d'un avocat pour voir si, comme on dit en droit, si les faits sont constitutifs du harcèlement sexuel. Je le redis, vous savez, parfois ça peut être, entre guillemets, qu'une impression, mais à partir du moment où on vous donne des détails sur ce qui s'est passé, sur depuis combien de temps vous êtes au sein de la société, sur d'éventuels témoignages que vous pouvez avoir ou pas, on peut commencer à construire ça sur un plan purement juridique. Et à ce moment-là, évidemment, c'est quand même intéressant d'avoir un échange, au moins un échange, avec l'avocat.
Mais parlez-en à votre entourage, ça c'est la base.
Mais c'est primordial, voilà, il faut pas s'enfermer, et puis encore une fois, quand on est victime de ça, c'est la dépression qui vous envahit, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Alors oui, vous allez vous mettre en maladie, mais vous n'aurez jamais la force de faire reconnaître les raisons de cette situation qui peut être dramatique. Donc il faut faire en sorte quand même d'en parler à son entourage, évidemment,
oui.
À minima.
Bah, la plupart des gens ne le font pas, d'ailleurs. Non. C'est ça le problème, c'est que...
C'est toute la difficulté. Je vous dis, la personne dont je vous parlais, on leur pose la question, hein. Et elle me répond que non, elle me dit vous êtes la première personne à qui j'en parle, donc elle vient en parler à l'avocat. Mais je crois qu'avant même l'avocat, parce que l'avocat, j'allais presque dire, est là pour apporter des une construction juridique, mais pour avoir quand même un autre type de compréhension. C'est vrai que si vous avez la possibilité d'en parler à votre entourage ou en tout cas à une personne de confiance, il faut évidemment pas hésiter. Maintenant, je peux l'entendre et le comprendre, hein. C'est pas évident d'évoquer ça. Il peut y avoir, vous pouvez aussi avoir comme réponse de dire, mais non, tu te fais que des idées. Donc, si vous en parlez à une personne de confiance et à vous répond ça, c'est-à-dire qu'on peut aussi recevoir un coup de gourdin sur la tête. Donc, c'est assez délicat. Et je crois d'ailleurs que les prédateurs, le savent, ça, hein. C'est en disant que la probabilité pour que l'intéressé puisse en parler à X ou Y et qu'on le veuille ou non infinitésimal. Donc il y a aussi, je crois, cet élément qui est pris en considération quand on est un prédateur.
Mmh. Et après, quand on en parle, c'est trop tard. C'est ça le problème.
Complètement. Mmh. Complètement. Et puis on peut même vous le reprocher. Vous savez, il y a une prescription qui est de 6 ans. C'est-à-dire, ça m'arrive aujourd'hui, j'ai 6 ans pour aller déposer une plainte. Mais en droit, on peut le comprendre et l'entendre, comme dire, oh, c'est un texte très précis, mais vous allez au commissariat en disant, je viens dénoncer des faits qui se sont produits, j'allais presque dire, ne serait-ce qu'il y a 6 mois, on va vous regarder un peu bizarrement. Si vous dites ça s'est produit il y a 2 ans, on va vous dire, écoutez, entre guillemets, fallait vous réveiller un peu plus tôt. Donc c'est terrible, c'est-à-dire que la loi, qu'on le veuille ou non, n'est pas forcément en votre faveur. Donc c'est assez délicat de se lancer là-dedans. Et puis le regard de l'entourage professionnel aussi. Vous pouvez jouer votre carrière, c'est-à-dire que en principe vous pouvez pas être licencié à la suite d'une plainte de cette nature. Mais voilà, on va vous mettre au placard, tout le monde va vous regarder de travers. Donc non, c'est vraiment très particulier. Et ce sont en règle générale des personnes qui sont véritablement isolées.
Mmh. Bon, même si les choses changent en entreprise et que la parole est libérée quand même. Hein.
La parole s'est libérée et on a malheureusement...
Non, alors Nadia Elbouga est avec nous sur le plateau et elle n'a pas l'air d'accord avec ça. Non, je ne pense pas que la parole s'est libérée.
Oh, si, quand même. Non, mais c'est... Enfin,
si
je
peux me permettre...
La parole s'est libérée, en tout cas, c'est mon impression, mais on le voit, ça se traduit juridiquement. C'est-à-dire que non seulement ça s'est libéré, mais il y a un contre-coup quand même. C'est-à-dire que à l'époque, enfin il y a quelques temps, on considérait encore une fois que c'était tout sauf du harcèlement sexuel. Aujourd'hui, pour un rien, vous pouvez aussi être mis sur la sellette et être critiqué par la première concernée, enfin le ou la première concernée. Et vous avez des syndicats qui ont changé le revers de leur veste. Au début, ils s'en foutaient un peu. Maintenant, ils n'hésitent pas à vous taper dessus. Alors que les faits, je le redis à ce stade-là, sont pas forcément établis. Donc, il faut aussi faire attention à ce balancier.
Ouais. Moi, je me méfie de cette phrase toute faite. Bonjour et à toutes et à tous. Je me méfie de ces phrases toutes faites du style « la parole s'est libérée ». Parce que c'est pas parce que les paroles se libèrent que forcément les comportements suivent derrière. Donc médiatiquement on parle beaucoup plus maintenant des violences faites aux femmes, du sexisme et voilà tout ce qui s'ensuit. C'est pas pour autant que la société a changé et vous l'avez dit très justement Maître Serran avant, on en est encore au stade où une femme qui va porter plainte a posteriori se prend des remarques du style c'est maintenant que vous vous réveillez, sans prendre en considération justement tout le traumatisme que peut générer le fait d'être harcelé, notamment dans un cadre où on est subordonné et où justement on sait que si on perd notre position professionnelle, c'est effet boule de neige derrière, notamment quand on est une femme et avec par exemple des enfants à charge et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pas aussi simple que ça, hein. Faisons pas des raccourcis, on est encore en 2021 à lutter avec des choses qui paraissent évidente, et pour autant la société n'a pas changé d'un iota. On le voit bien d'ailleurs, ça se retranscrit politiquement dans l'actualité.
C'est-à-dire ?
Je m'arrêterai là. On ne peut pas dire que ce soit des personnes qui soient très fervents des droits des femmes actuellement qui ont le vent en poupe. Hein.
Bien. Là, c'était l'avocat qui parlait, maître Serran. Vous vous dites que finalement, il ne faut pas, tant que les faits ne sont pas établis ou jugés...
Encore une fois, il y a les deux aspects. Et ce que dit Nadia, on l'entend et on le comprend. Maintenant, on peut se mettre aussi, parce que c'est aussi arrivé, à la place de la personne qui se retrouve salie. Alors, pourquoi je dis salie ? Parce qu'à la fin, il y a une décision de relax. C'est-à-dire que pendant... Et ce sont des enquêtes qui durent pas une semaine. C'est-à-dire que pendant des mois... On peut aussi vous traîner dans la boue, on peut vous faire passer pour un prédateur sexuel, et puis il s'avère à la fin qu'un tribunal vous relaxe. Relaxer, ça veut dire qu'on n'a pas d'éléments suffisants donc pour éventuellement vous condamner. Alors c'est toujours interprété en disant mais il n'y a pas d'éléments suffisants, donc il y en a peut-être. Bah, à partir du moment où on est relaxé, sauf qu'une fois que vous êtes relaxé, mais je crois que c'est dans tous les domaines du droit, qui va en parler ? C'est-à-dire que vous avez quand même été sali, vous avez été taché, et on peut aussi se mettre à la place de l'intéressé qui n'aurait rien à se reprocher et qui se voit quand même acculé face à ce type d'accusation, qui lui aussi peut être marié, il peut avoir des enfants. Donc il y a aussi cet aspect-là. Donc voilà, hein, rien. Enfin, c'est pas blanc ou noir. Faut aussi faire attention à ça.
Alors tout à fait. Là, c'est l'avocat qui parle. Donc évidemment, il y a des cas d'accusation. D'ailleurs, on l'a vu dans le cadre du mouvement #MeToo. Hein, on sait très bien, et ça a toujours existé, qu'il y a des accusations non fondées ou des volontés de vengeance ou je ne sais quoi. Mais attention, ne prenons pas la marge pour le centre. C'est pas ces quelques cas-là qui font la majorité. La grande majorité, c'est quand même des femmes qui vous disent qu'elles sont agressées, qu'elles sont harcelées, qu'elles sont pour certaines violées, et ce sont des faits réels, et c'est une réalité que vivent les femmes. Le harcèlement, je vais pas aller dans l'extrême du viol, mais le harcèlement, je vous mets au défi, au téléphone, appelez mesdames, d'une femme qui puisse me dire qu'elle n'a pas été harcelée une fois dans sa vie, même dans la rue. Voilà. Je lance, et puis on attend les appels.
Bien, 0153-48-3000.
Si, oui. Si vous êtes un homme et vous avez été harcelé, n'hésitez pas à appeler également, puisque ça existe aussi.
Mais justement, maître Serran, je ne dis pas que ça n'existe pas.
Non, mais c'est bien de le préciser. Mais c'est
oui,
pas, voilà.
Évidemment, il faut toujours, dans notre démarche de justice, il faut toujours avoir ce discours équitable. En revanche, sociologiquement, il y a une réalité. Donc, c'est du côté des dominés que se retrouve quand même la grande majorité des victimes. Soyons clairs.
01 53 48 3000. Allez, c'est tout droit jusqu'à 10h sur BFM. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Allez, maître Serran est avec nous comme tous les vendredis. Nous accueillons maître Serran. Sabrina au 01 53 48 3000. Sabrina, bonjour.
Oui, bonjour tout le monde.
Bonjour. Comment Sabrina. Ça va et vous?
Très bien, merci. Alors, écoutez, moi, je vous appelle pour témoigner un petit peu, parce que je vous écoute depuis ce matin, et c'est vrai que ça a remonté certaines choses dans mes souvenirs. Pas forcément très agréable, mais malheureusement, je ne témoignerai pas pour dire que j'ai jamais vécu ce genre de situation. Malheureusement, je le vis depuis très longtemps. Grâce à Dieu, il s'avère que je suis une femme qui est quand même assez jolie. Et malheureusement, ça m'a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes tout le long de, depuis la scolarité jusqu'à aujourd'hui, ma vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai 40 ans.
Vous êtes toujours aussi jolie à 40 ans, Sabrina ?
Et écoutez, mon papa me dit tous les jours que si quelqu'un te dit que t'es belle, il t'a menti. Donc, j'ai envie de vous dire, grâce à Dieu, j'ai un papa et une maman qui sont très beaux. Et puis, écoutez, ils ont fait de beaux enfants. Ouais. Donc, on a cette chance.
D'accord. Sabrina, donc, ce que vous le vivez dans un cadre donc professionnel, on est d'accord ?
Scolaire et professionnel. D'accord. J'ai même vécu pendant ma scolarité. Donc, c'est-à-dire, j'étais très jeune, j'étais innocente, je ne connaissais pas trop ce genre de choses. Et malheureusement, je l'ai vécu avec des profs, quelque chose qui était vraiment horrible.
Je ne
comprenais pas trop. Ah ouais. Et j'essayais de me dire que non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Il peut pas me dire une chose pareille. Il peut pas me dire, par exemple, de venir après les cours, pendant la récréation, des choses comme ça, pour venir m'expliquer des exercices, me rapprocher de moi, des choses comme ça. Mmh. Vous voyez, tout bête. Mmh. Mais en tant qu'enfant, on se dit, mais enfant, parce que moi j'appelle ça enfant. À l'époque, j'étais vraiment innocente. La génération n'est pas la même. Mais c'est quand même horrible. Pour vous dire, j'étais en bac, je travaillais le samedi dimanche pour faire un peu d'argent de poche dans une grosse boutique. On ne vous donnerait pas l'enseigne. Et il s'avère qu'il y avait un responsable dans cette boutique-là qui me faisait vraiment du rentre-dedans systématiquement. Donc c'était à chaque fois, rejoins-moi dans le dépôt, viens avec moi, et puis qui passait, qui me frôlait, qui me respirait, mon odeur, mon parfum, etc. Et c'était horrible. Et à un moment, j'ai
fallait péter. Mais qui les pète,
c'est pas élégant.
Mais Serane,
mais c'est pas élégant, mais c'est voilà, là c'est mort.
On ne fait pas pipi.
C'est vrai, vous êtes des princesses, c'est des mythes.
Voilà. Ouais. Donc on n'a pas le droit. On est des princesses, on ne fait pas ça. Et donc le jour où j'ai parlé, où j'ai dit comme quoi voilà cette personne-là, me faisait peur, que comme quoi je voulais plus aller dans le dépôt parce que j'avais peur qu'il me fasse quelque chose, etc. Ben qu'est-ce qu'on a fait? Ben on a arrêté mon contrat. Parce que lui était là depuis 15 ans et puis que c'était quelqu'un voilà de bien. Puis moi j'étais une jeune étudiante donc je devais la fermer puis pas dégager. Donc on m'a viré, on m'a arrêté mon contrat parce que j'avais dit ça. Et aujourd'hui bah, des fois je vais dans ce magasin là. 20 ans après il est toujours là. Il est responsable même de il a pris du grade et il est toujours là. Et puis quand je passe dans le magasin il me regarde avec un grand sourire. Je vous dis même pas l'envie que j'ai de lui rentrer dedans. Mais je peux rien faire parce que c'est ma parole contre la sienne et puis apparemment la sienne a eu plus de poids.
Donc, et c'est ce que vous disiez, Maître Serane, tout à l'heure, c'est que finalement, une des difficultés en entreprise de porter plainte, c'est que on peut vous dégager. Ce qui s'est passé pour Sabrina, la victime s'est faite dégager.
C'est toute la difficulté, encore une fois. On est en matière de droit. Si vous n'arrivez pas à prouver ce que vous êtes en train de dire, si vous n'avez pas de témoignage en votre faveur, on sait très bien que des personnes qui viendraient témoigner en votre faveur dans le cadre de votre activité professionnelle, ça court pas les rues. En règle générale, quand on voit ce type de témoignage, ce sont des personnes qui ont déjà démissionné ou qui ont quitté la société depuis X temps et qui viennent vous dire « Ah bah oui, effectivement, à l'époque, il se passait ça. » Mais un témoignage, j'allais dire contemporain, vous le trouverez pas. Donc votre parole contre celle d'un responsable, ça tient pas trop la route, malheureusement.
Alors, Sabrina, quand vous avez décidé d'en parler, pour la première fois, vous en avez parlé à qui?
Ben, j'en ai parlé aux vendeurs qui étaient avec moi dans le magasin.
D'accord.
Et ensuite, ils m'ont dit d'aller voir directement la RH et d'en discuter avec elle.
D'accord, vous en avez parlé à vos collègues quand même, dans un premier
Exactement.
Temps. D'accord.
Oui, mais ils le savaient, ils le voyaient très bien, les collègues, par contre. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu, ils ont très bien vu ce qu'ils faisaient, ils ont très bien vu qu'ils me tournaient autour, etc. Donc c'était même pas un mensonge, mes collègues ont cru, et même je pense que même les RH et tout ça, ils l'ont cru, ils l'ont vu. Mais ils n'ont pas voulu agir dans mon sens à moi, mais plutôt dans son sens. J'étais une petite étudiante qui était là le week-end, lui il était là depuis 15 ans, on veut pas de problème, on veut rien, allez hop, au revoir. On veut pas en entendre parler, c'est quand même un gros groupe, et ils voulaient pas entendre d'histoire d'harcèlement, etc.
Et de cette injustice, vous en avez fait quoi, Sabrina?
Ben, j'ai envie de vous dire que ça m'a forgé un caractère aujourd'hui. J'ai 40 ans, comme je vous ai dit. Mmh. Et tout ce que j'ai eu dans ma vie, parce que j'en ai eu tout le temps, hein. Je veux dire, après, j'ai postulé dans une grosse société, pareil, de transport. Le RH, le jour de l'entretien, ça s'est super bien passé. Il m'a dit que c'était bon. Et à un moment, ben, il a fermé la porte en me regardant, en me disant comme quoi, ben, écoutez, moi, pour moi, c'est bon, mais si on finalise ça en beauté. Il a fermé la porte, j'étais toute seule avec lui, j'avais 20 ans. Comment vous dire que là, j'étais pas bien, ma respiration s'est coupée, je ne savais plus quoi faire. Donc, je me suis levée et j'ai ouvert la porte et je suis partie. Tellement j'étais terrorisée, j'en ai tremblé pendant des heures et des heures, quoi. Donc, pour vous dire que très jeune, j'ai connu ce genre de situation et aujourd'hui encore, je le vis au quotidien. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai 40 ans, grâce entre guillemets, hein, c'est vraiment ironique, je me suis forgé un caractère et une force, c'est qu'aujourd'hui, je leur rentre dedans. Aujourd'hui, je prends l'RERB, je prends l'RERT n'importe lequel. Il y en a un qui me met une main aux fesses. Je peux vous jurer qu'il passe une sale journée. Il n'y a même pas un mois, j'en ai mis une à un mec dans le métro. Parce qu'il s'est permis de me frotter, de passer à côté, etc. Normal, comme si j'étais libre-service, une femme libre-service et qu'on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte plus. Dehors, je vois des femmes qui se font embêter par des gars, qui se font vraiment aguicher, mais violemment, et qui insistent. Moi, j'interviens. Quitte à m'en prendre une, c'est pas grave, mais au moins, j'aurais aidé quelqu'un. Parce que je sais ce que c'est, je l'ai souffert, je l'ai vécu, et aujourd'hui, je l'ai au fond de moi, et c'est horrible. C'est horrible.
Sabrina, en tout cas, merci de votre témoignage ce matin. Il y a énormément d'appels et votre témoignage a libéré lui la parole pour le coup et on a beaucoup de témoignages. Merci de votre
plaisir.
En tout cas, merci de la confiance que vous nous faites pour nous en avoir parlé comme ça, Sabrina. Merci beaucoup.
Mais c'est toujours un plaisir. Merci à vous. Très bonne journée et à très bientôt.
Merci.
Merci Sabrina.
Au revoir.
Alors direction Toulouse. Nadia est avec nous au 01 53 48 3000. Non, alors Maxime d'abord. Max.
Oui, bonjour.
Maxime. Bonjour.
Oui, bonjour Maxime Paris.
Maxime de Paris. Bien. On vous écoute Maxime.
C'est ça. Donc voilà, bah, dire bonjour à tous. Je vous écoute tous les jours.
Bonjour Maxime.
Continuez comme ça.
Et c'est, vous savez quoi, d'habitude vous nous écoutez, mais aujourd'hui c'est nous qui vous écoutons, Maxime.
Ouais, bah c'est super. Donc voilà, moi je tiens à intervenir justement, le sujet est assez sensible parce que je travaille dans une entreprise assez connue sur Paris où nous avons la chance, enfin j'ai la chance de travailler dans une équipe où il y a plus de femmes que d'hommes.
D'accord.
Et puis ça fait un petit moment que l'entreprise fait énormément de formation et donne énormément de trac sur l'harcèlement sexuel au travail. Et depuis qu'ils font ça, bah il y a énormément de problèmes au travail. Il y en a plus qu'avant.
C'est intéressant ce que vous dites. Comment est-ce que vous expliquez ça?
Bah écoutez, avant tout se passait bien, on arrivait à travailler en osmose, il n'y avait aucun conflit, que ça soit du côté des femmes ou des hommes. Moi je travaille, comme je dis, dans un domaine où, dans mon équipe, moi je suis chef d'équipe, il y a 6 femmes, il y a 4 hommes.
C'est quoi votre secteur d'activité, Maxime, si vous voulez bien préciser?
Transport en commun, on est contrôleur.
Ah oui, mais vous avez travaillé à la régie, j'imagine.
Voilà, je ne pourrais pas citer l'entreprise,
voilà, mais bon.
On est contrôleur.
D'accord, très bien.
Et puis depuis qu'il y a ces fameuses formations, bah, je vous garantis qu'il n'y a que des problèmes.
Mais Maxime, c'est peut-être parce que avant ces formations, le type lourd avait peut-être pas l'impression d'être lourd ou de jouer le pénible, non? Il y a peut-être une prise de conscience à ce moment-là. Peut-être que les femmes,
parce qu'en fait, les formations se font pour les hommes et pour les femmes.
J'entends bien, mais c'est justement le but de ces formations, c'est de dire bon, il y a eu un avant. Alors, qui était, j'allais presque dire, communément accepté par les uns et les autres, et même quand on allait au-delà de la blague lourde, ben on considérait que c'était normal. Ben peut-être qu'avec ces formations, on considère que tout ça n'est pas si normal que ça. C'est peut-être ce qui fait que aujourd'hui, avec cette prise de conscience, on considère que les comportements ou gestes d'hier sont des comportements et gestes aujourd'hui qu'on ne peut plus accepter. Donc c'est peut-être une bonne chose aussi, non?
Pour moi, c'est pas une bonne chose parce que ça n'a ramené que de la discorde et de la tension au sein de l'équipe. Ce qui fait que l'équipe, elle s'est divisée, on a dû la réorganiser. Certaines personnes se sont retrouvées interdites de travailler avec d'autres parce qu'il y a eu des plaintes des deux côtés. Hein. Les plaintes ne sont pas tombées que du côté des femmes, il y a aussi certains hommes qui se sont plaints. Donc, on était là en train de coller les pansements. Mon responsable n'a fait que me convoquer pour à chaque fois me dire oui, qu'est-ce qui se passe entre telle et telle personne. C'est deux personnes qui avaient une relation. Une relation au travail. Ensuite, ça s'est envenimé, ils n'étaient plus ensemble, ils ont commencé à se tirer dans les pattes. Donc, ce qui a fait, il commençait à avoir des petits gangs à gauche, à droite, le gang des femmes, le gang des hommes, et comme je l'ai dit, ça n'a fait que envenimer la chose, ces formations, ça n'a rien arrangé. Après... Donc, en fait, je reviens un peu sur ce que monsieur a dit tout à l'heure. En fait, j'ai l'impression que c'est de la vengeance.
Maxime, attendez, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez pourquoi, qu'est-ce qui a décidé votre entreprise, finalement, à dispenser ces formations? Est-ce que...
En fait, c'est la mode. Je pense que c'est un phénomène de mode. Aujourd'hui,
Il y avait peut-être des cas qui remontaient à la RH et qui se...
Sincèrement, moi je vous dis, je parle énormément avec mon service RH, il n'y avait aucun cas de remontée de harcèlement sexuel, en tout cas dans mon service. Hein.
Ouais.
Je conçois qu'il y ait de harcèlement sexuel, c'est une réalité. Je connais des victimes et franchement, c'est horrible. Ça existe. Mais en tout cas, dans notre service, il n'y avait aucun souci. Depuis qu'il y a eu ces fameuses formations, j'ai l'impression que ça a créé des envies chez certaines personnes des deux côtés. Et puis, ça n'a fait que créer des tensions entre les hommes et les femmes. Ça n'a rien arrangé.
Je peux me permettre d'intervenir?
Allez-y, Nadia.
Bonjour, Maxime. Oui, c'est ça, Maxime.
Bonjour, madame.
Oui. Alors, c'est pour revenir sur votre expression effet de mode. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est aussi une expression fourre-tout. Il n'y a pas d'effet de mode quand il y a des souffrances. Donc il y a juste un espace de parole qui a été autorisé. Et donc des personnes maintenant qui peut-être 20 ans en arrière se seraient tues et auraient remballé leurs souffrances, la déposent maintenant. Après là, vous donnez un cas particulier d'une relation amoureuse au travail. Donc ça, j'ai envie de vous dire, finalement, au travail ou ailleurs, quand finalement des personnes n'apprennent pas à se séparer en bonne entente, voilà, ça aurait pu arriver même dans un autre contexte hors travail. Là, nous, ce dont on parle, c'est le harcèlement sexuel dans un cadre précis, et ça, on peut pas parler d'effet de mode. Il y a juste maintenant la libération de la parole, et les femmes osent, et les hommes, certains hommes, osent dire maintenant que voilà, qu'il faut arrêter.
Voilà. Alors Maxime, merci pour votre témoignage. En tout cas, on a entendu ce que vous nous avez raconté. Hein. C'était votre expérience que vous avez partagée. Merci de l'avoir fait. Rapidement, je voudrais qu'on accueille Eliès. On va à Grenoble. Eliès, bienvenue.
Oui, bonjour. Merci de me recevoir à votre antenne. Moi, depuis ce matin, je suis en train d'écouter votre émission. On parle des agressions sexuelles et autres envers les femmes, mais on ne parle jamais des agressions qu'on subit, nous, les hommes. Moi, j'ai subi quelque chose de très, très grave, où j'ai perdu un enfant à cause d'une femme. Et toutes les preuves étaient contre la femme que j'avais épousée. Donc, elle a été jusqu'à se faire des suçons à l'œil pour que ça fasse des beurres, un œil beurre noir. J'ai été déçu des droits parentaux, etc. Et aujourd'hui, je récupère un enfant de 20 ans drogué, alcoolique et tout ce qui s'en suit.
Alors, Elias, alors effectivement, là vous parlez de votre ex, peut-être épouse ou compagne, mais peut-être qu'on n'est pas dans le sujet. Hein, et c'est vrai que ça, c'est ce qui se passe en cas de séparation. Et on pourrait faire une émission avec Elias, si vous voulez bien, parce que ça, ça aussi, c'est un vrai sujet et il faut qu'on pose les choses. Voilà, mais là on parle du harcèlement au travail, Elias. Bon. On continuera cette émission parce que vous êtes nombreux à vouloir intervenir. Bien sûr, sans jugement, chacun peut venir avec son histoire. Et voilà, si vous avez vécu quelque chose, racontez-nous-le. Merci, Maître Serran, on vous retrouve...
Avec plaisir.
Il sera là, plaisir ?
Bien sûr.
Tiens, j'ai un livre pour vous, d'ailleurs, en parlant de ça. Et je sais que vous pouvez l'offrir à Madame Serran.
Ah bah écoutez, je n'y manquerai pas.
Qui nous remerciera. Et demain, c'est l'imam Abdelali Mamoun qui sera avec nous pour l'islam au présent. Très belle journée.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.